Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on va parler des ados, les ados d'aujourd'hui. Alors bon, bah si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous êtes vieux, quand vous étiez ado, vous aviez sans doute un téléphone portable déjà, parce qu'on n'est pas non plus si vieux que ça, mais on n'avait pas forcément Internet. Et c'est désormais l'un des problèmes pour la génération d'ados aujourd'hui avec Internet, ce sont les mauvaises rencontres sur Internet. Comment protéger nos enfants du web, des mauvaises rencontres, du harcèlement, du cyberharcèlement, pouh là là, c'est anxiogène tout ce que je dis, mais vous allez voir que dans cette émission, on va vous donner des très bons conseils. On va déjà entendre Alia. Alia qui a 19 ans aujourd'hui, elle a été harcelée et cyberharcelée à l'âge de 14 ans, donc témoignage costaud d'Alia. Puis derrière, nous serons avec Samuel Comblé, qui est psy, qui est formidable et qui nous donnera des bons conseils pour armer nos gosses, pour armer nos enfants, pour faire en sorte que ça se passe bien pour eux, Internet, parce que c'est génial Internet, hein. C'est pas que du harcèlement, etc. Mais quand même, faut en parler. Allez, c'est parti.
Bonjour Alia.
Bonjour.
Merci d'être venue sur ce plateau parce que votre témoignage est très important. Vous avez 20 ans aujourd'hui, vous êtes étudiante en psychologie à Nantes et quand vous aviez 14 ans, vous avez rencontré un jeune homme, un inconnu sur Internet. Vous en êtes tombée très très vite amoureuse, mais l'histoire s'est transformée progressivement en chantage sexuel. Malheureusement, c'est une histoire qui est plutôt, je dirais, banale, hein, parce que ça arrive très très souvent, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Et votre témoignage est devenu un livre, paru en 2020, qui s'appelle « Juste une histoire de nude ». C'est aux éditions du Raton Laveur. Donc, à 14 ans, vous êtes en troisième, si je ne m'abuse. Quel genre de jeune fille est-ce que vous étiez à l'époque ?
On va dire que j'étais plutôt simple, en fait. Je ne me faisais pas trop remarquer, parce que j'étais souvent sujet à être... On se moquait souvent de moi, en fait, depuis mon entrée à l'école. Et donc, j'étais très renfermée. En fin de compte, je n'essayais pas trop d'embêter qui que ce soit.
Vous étiez plutôt discrète, plutôt dans votre coin, plutôt renfermée. Et donc, en septembre 2015, donc les journées étaient plutôt difficiles au collège. Vous avez trouvé dans Internet une sorte de refuge et même d'épanouissement, je dirais.
Oui, une amie m'avait conseillé ce jeu en ligne, Habbo, que je n'aime pas trop citer parce que je ne le conseille pas, évidemment.
Mmh, oui.
Et je suis tombée, évidemment, sur une personne alors, dont je suis tombée amoureuse au fur et à mesure parce qu'elle elle m'apportait ce que je n'avais pas, en fin de compte, d'une personne extérieure.
Il s'est présenté comment ça... En fait, c'est quoi? C'est un jeu, du coup, il y a des chats,
oui.
C'est ça? Et comment est-ce qu'il s'est présenté et qu'est-ce qu'il vous a dit?
En fait, il était très... Il était très attendrissant, il était toujours attentionné, il m'apportait ce que je n'avais pas. C'était quelqu'un qui me faisait sentir que j'étais belle, que j'avais le droit de vivre sereinement, en fait. Voilà.
Alors, il se présente comme Alexandre, c'est ça ?
Alexandre, oui.
Quel âge ?
17 ans.
Donc, bon.
Oui, la différence d'âge ne me dérangeait pas à ce moment-là.
C'était des échanges plutôt romantiques ?
Oui, très romantique. On a parlé par mail ensuite et on s'échangeait des poèmes, on s'échangeait des choses très simples et de l'amour, quoi, tout simplement.
Donc très vite, il vous dit on pourrait être en couple, on pourrait être amoureux.
Oui, il m'a demandé de parler sur Snapchat ensuite, ce que je ne voulais pas à la base. Et très vite, il m'a dit vas-y, on est un couple, quoi. On est ensemble.
Et vous, qu'est-ce que ça faisait à la jeune fille de 14 ans que vous étiez à l'époque ?
Ça me faisait vraiment bizarre parce que mes sentiments amoureux que j'avais pu éprouver dans mon enfance n'avaient jamais été réciproques auparavant. Donc c'était vraiment quelque chose qui changeait pour moi.
Vous étiez toute heureuse, quoi.
Oui.
Et puis très vite, en fait, les échanges, ils ont commencé à changer un peu de forme. Il a changé de comportement, Alexandre, entre guillemets.
Oui.
C'était plus aussi romantique.
Non, ce n'était plus romantique. Un jour, il m'a dit qu'il avait besoin de preuves, d'une preuve d'amour. J'avais 3 jours et je lui ai envoyé, en fin de compte, puisque je n'avais pas d'idée, il m'a dit « tu m'envoies une photo de tes seins, juste une photo de tes seins, c'est rien. Tous les couples font ça. » Et c'est là qu'il me prenait pour une autre personne que je n'étais à la base. Moi, ça ne me plaisait pas trop, mais bon, pour le garder, c'était la condition. Il fallait que j'envoie toutes ces photos.
Voilà, donc il vous rassure en vous disant, c'est parce que tu sais pas, mais en fait, c'est tout à fait normal quoi, d'envoyer ses seins à la personne avec qui on est en couple. Alors après, ces demandes ont évolué, il y a eu les seins, et après, qu'est-ce qu'il vous demandait ?
Toutes sortes de choses, de plus en plus sordides en fait. Alors, il me demandait des photos de tout mon corps, des vidéos dans lesquelles je me masturbais, je faisais semblant de jouir. C'était ses demandes et même parfois des ordres. N'importe quelle heure du jour et de la nuit d'ailleurs, je mettais mon réveil la nuit, parfois à 3h30 du matin ou à 4h, 5h, 6h, à l'heure à laquelle je devrais dormir à la base. Mes parents ne soupçonnaient pas tout ça d'ailleurs.
Vous avez même demandé de vous mettre des objets,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Alors vous étiez vierge, il faut quand même
oui.
le dire, à
oui.
l'époque. Et ça, c'était... Comment est-ce qu'ils présentaient ça ? Ils vous disaient, je veux que tu te mettes un objet dans la vulve, sinon c'est fini entre nous ? Qu'est-ce qu'ils vous disaient ?
Alors, ils ne me disaient pas clairement que ça allait être fini, mais moi, je l'avais déjà compris auparavant. Et puis, c'était toujours, t'inquiète pas, c'est normal de faire ça. Toutes tes copines, elles le font, dans tous les cas. Et puis, fais comme si c'était moi, fais comme si c'était mon pénis. C'était pas du tout ce que je voulais, moi. Mais bon, je me disais bien que c'était la seule façon de le garder auprès de moi. Je ne pouvais pas me permettre de le perdre, quoi.
Mmh. Alors, en janvier 2016, ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de lui et vous recevez un message. Et là, c'est un message auquel vous attendiez pas du tout.
Oui, c'est le plafond de ma chambre qui me tombe sur la tête. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Il m'a envoyé un message me disant qu'il m'avait bien fait jouer, j'étais la marionnette idéale. Il avait réussi à faire tout ce qu'il voulait de moi. J'étais l'esclave sexuelle dont il rêvait. Et par contre, là, on n'est plus ensemble. Et puis, il fallait que je continue de faire des photos et vidéos. Sinon, il diffusait. Moi, je me disais, il n'a pas screené dans tous les cas, il n'a pas fait de capture d'écran, comme on dit, sur Snapchat, puisqu'on a à la base la notification. Non, bien sûr, il avait toutes les photos et il me les a envoyées toutes les 10 minutes. Il m'envoyait une photo de moi et là, j'ai bien vu que je n'étais plus maître de moi-même. Et c'était bien lui, c'était bien dans ses mains à lui. Et là, je ne savais pas entre quelles mains j'étais exactement.
Vous avez l'impression que c'était comme un piège qui s'est refermé sur vous ?
C'est exactement ça. Quand j'ai vu toutes ces photos en face de moi, me voir mon corps en face de moi, dans mon téléphone, là, j'ai commencé à vraiment avoir peur et me demander ce que j'allais devenir, quoi. Comment j'allais faire pour m'en sortir, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse.
Comment vous avez réagi concrètement ?
Je me suis scarifiée. J'ai pris un compas, donc ce qu'on a tous quand on est jeune dans notre trousse. Et j'ai commencé à me donner des coups sur les poignets, sur les cuisses, parce que j'avais tellement honte de moi. Et j'avais l'impression que c'était la seule solution quelque part. Alors évidemment, ce n'en était pas une. Mais parler, pour moi, c'était impossible. Je me disais que mes parents allaient me mettre dehors, ce qui n'aurait pas été le cas, évidemment. Mais
Vous aviez trop honte, j'imagine.
Oui, et j'avais peur.
Et du coup, vous avez fait ce qu'il a demandé ?
J'ai
fait ce qu'il a demandé. Vous avez cédé au chantage ?
Oui, j'ai cédé le premier soir, le deuxième soir. Le mardi, j'arrive au collège. Pourtant, avoir répondu à ses actes, il a tout diffusé. Il a diffusé toutes les photos...
À qui il les a diffusées ?
Aux personnes du collège.
À vos copines, à vos copains ?
Oui, on peut dire ça. Mmh. En fait, c'était des personnes, évidemment, dont je n'étais pas très proche et qui se sont bien marrées, quoi. Alia, elle a la chatte poilue, voilà. Alors deux copines sont venues me voir. Alia, t'es en danger. Le soir même, on m'appelle pour me dire que oui, les photos ont été encore diffusées dans le car. Ça ne s'arrêtait pas. J'étais la pute du collège. C'est ce qu'on me faisait comprendre et c'est ce qu'on me disait clairement.
Vous avez continué à vous scarifier ?
J'ai continué à me
scarifier. C'était quoi ? C'était un appel au secours ?
Oui. Ben, inconsciemment, c'est ce que je dis aux jeunes quand j'interviens. C'est quand on fait ça, on n'est pas bien. On appelle au secours. On essaye de faire transparaître quelque chose de... Aide-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Enfin, demande-moi ce qui m'arrive, quoi. Mmh. Moi, c'est ce que j'attendais quelque part, même si pour moi, parler, c'était impossible.
Deux jours après, tout le collège était courant.
Tout le collège était courant. Et puis là, il fallait que je parle au directeur. C'était autre chose. Je n'avais pas de problème avec lui pourtant, mais ce n'était pas si simple que ça. De devoir dire, j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, ce qu'il allait pouvoir me dire, si j'allais être virée du collège. J'avais peur de tout ça. Alors, en fin de compte, tout s'est bien passé pour moi. Et puis, l'après-midi, ma maman m'a emmenée porter plainte à la gendarmerie.
Lui, le directeur, a prévenu vos parents ?
Oui.
Et donc, tout de suite, votre maman, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos parents ?
Ils ont très bien réagi. Alors, mon papa, pour lui, c'était un peu plus compliqué. Je pense de l'incompréhension totale. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'était moi qui avais envoyé ma photo, c'est vrai. Il a tout à fait raison. Et il me voyait plutôt, alors pas forcément comme la coupable à part entière, mais en tout cas, c'était moi qui avais envoyé ma photo, donc c'était de ma faute quelque part. Ma maman, elle avait bien vu qu'elle avait failli me perdre. Elle me disait, mais j'ai failli te perdre, quoi. Et je ne l'ai jamais vue.
Elle était sous emprise.
Oui.
Comment vous avez réussi à vous libérer de ce traumatisme? Parce que son intimité diffusée dans tout le collège pour une jeune fille de 14 ans qui, en plus, est plutôt inhibée, on peut imaginer à quel point c'est une déflagration.
C'était très compliqué. Alors, souvent, je dis que je n'ai pas vraiment eu de... Je ne sais pas comment ça se fait que je sois encore là aujourd'hui, parce que j'aurais très bien pu en finir tellement... On est rendu tellement loin dans la douleur que ce n'est plus possible de vivre. Enfin, on a cette impression-là. Et j'ai commencé à écrire parfois sur des morceaux de papier ou à taper dans mes coussins. C'était un peu mieux que taper dans un mur. Et puis, à un moment où je me suis mise à écrire. Et j'ai sorti finalement la tête de l'eau qu'en terminale. Je me suis fait harceler jusqu'en terminale.
Oui, donc ça a duré longtemps quand même.
Oui.
Aujourd'hui, ça va?
Très bien.
Vous allez, vous intervenez auprès de jeunes pour les prévenir des dangers d'Internet?
Oui, aux côtés d'une sexologue, Véronique Agrapard. J'interviens, oui, avec les jeunes, au lycée, au collège, aussi en conférence parents, pour avertir et pour leur dire, faites attention parce que ça pourrait vous arriver et ce n'est pas ce que je veux, quoi.
Bonjour Samuel Comblé, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance à Paris, qui protège et qui informe les jeunes sur les usages du numérique. Alors on l'a vu dans l'histoire d'Alia, le chantage sexuel, ça s'est vite transformé en harcèlement véritable sur les réseaux, à l'école aussi. Quand on est dans cette spirale, qu'on a des vidéos de soi en train de se masturber, je veux dire, comment est-ce qu'on peut sortir avec la honte que ça entraîne? Comment on peut sortir de cette spirale?
Alors c'est vrai que le témoignage d'Aïa, il est très poignant parce qu'on a l'impression que c'est un cas extrême. À l'association e-enfance, on envoie des dizaines chaque semaine des cas comme ça.
C'est
hyper banal. Et c'est vrai que c'est des situations qu'on ne connaît pas parce que c'est le corps mis en avant. C'est des choses évidemment dont on ne doit pas parler en famille. Et on a plutôt tendance à se recroqueviller sur soi-même. Pour répondre à votre question, la première des choses à faire, c'est surtout de ne pas garder le silence, d'en parler. Et d'ailleurs, dans le témoignage, Aïa le dit bien, quand elle a commencé à en parler au directeur de l'école, il a contacté sa maman et c'est à ce moment-là qu'elle a pu sortir de cette situation. Mmh. Donc la première des choses, c'est vraiment de sortir de ce tabou du silence, de permettre aussi aux familles de s'intéresser à ce que les enfants font sur Internet, je pense qu'on va en reparler, parce que si les parents n'osent pas faire le premier pas, les enfants ne vont pas non plus oser expliquer ce qui se passe. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le prédateur, cet Alexandre dans l'histoire, il a cherché à faire peur à Alia et ça a bien marché. Et c'est aussi sous l'effet de la peur que le piège s'est refermé sur elle, puisque l'emprise dont il a été question va fonctionner à partir du moment où on va avoir un pouvoir, une autorité sur la victime. Et l'idée, c'est peut-être déjà de montrer, dans la mesure du possible, qu'on n'a pas peur, ou en tout cas de cesser tout contact avec ce prédateur pour ne pas lui donner ce dont il a envie, à savoir utiliser la peur de sa victime.
Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que, parce qu'on ne l'a pas dit dans le témoignage, et c'était important, on ne l'a jamais retrouvé. Alexandre.
Ouais. Exactement.
Donc ça, c'est compliqué.
Plusieurs dizaines de cas, vous avez bien dit, par semaine, similaires à cette histoire qui, peut paraître déjà extrême.
C'est ce qu'on appelle le revenge porn, c'est vraiment hyper classique.
Surtout des garçons, des filles victimes?
Alors, c'est plutôt des filles, et globalement, c'est plutôt les filles qui sont victimes de cyberharcèlement. L'âge de 13-14 ans est un âge un peu critique quand il s'agit d'être harcelé sur les réseaux. C'est souvent là où on commence à s'exposer le plus, où on a une certaine autonomie sur les réseaux sociaux, loin de la surveillance de ses parents, avec malheureusement les cas qu'on a entendus là.
On a reçu cette question pour vous en vidéo de Myriam.
Bonjour la maison des maternelles. J'ai entendu dire que les nudes font partie de la sexualité des jeunes. Je suis maman d'ado et du coup ça m'inquiète. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire de la prévention auprès d'eux. Merci beaucoup.
Pas que des jeunes, non, les nudes.
J'ai envie de dire, ça fait partie de la vie sexuelle des adultes aussi. Et puis, depuis très longtemps, ce qui a changé peut-être, c'est la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui échanger des photos avec un smartphone. Ça prend 3 secondes. On n'est pas obligé d'aller au laboratoire chercher, comme on le faisait avant, les photos.
Et donner sa pellicule.
Et d'envoyer par la poste. Donc, ça, c'est vrai que ça facilite les choses. Et c'est aussi pour ça que ça crée un engouement chez les adolescents, puisque la technique les aide particulièrement. Comment, pour répondre à cette maman, comment prévenir? C'est là aussi, une fois encore, en parler. mais tout simplement de dire que la sexualité, elle peut très bien se faire et les relations amoureuses peuvent aussi être hyper joyeuses et constructives sans en passer par cette obligation. Pour revenir sur le cas d'Alia tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation, contrairement à ce que disait Alexandre, toutes les filles ne font pas ça et on peut très bien montrer son amour, montrer la puissance de sa relation autrement qu'en se dévoilant, en se mettant nu. Peut-être qu'on peut expliquer que tous les adultes ne font pas ça et c'est vraiment c'est important de mettre les choses clairement dans la tête des jeunes. Il y a plein de façons de s'aimer, il y a plein de façons de montrer encore une fois que la relation est vraiment honnête et qu'elle est forte et ce passage obligé il est faux et ça il faut vraiment le dire et ça veut dire que c'est les parents qui doivent aller au devant là aussi des enfants parce que
un gros travail de prévention.
Et oui, parce que souvent les ados vont s'échanger ça évidemment sans que les parents soient au courant. Déjà dire qu'on a un petit copain c'est compliqué, dire en plus qu'on échange des photos de soi dénudées c'est encore plus compliqué. Donc il faut vraiment, et vos émissions elles servent aussi à ça, c'est de dire aux jeunes non, ça n'est pas un passage obligé pour montrer la relation, la force de la relation.
Mais oui, en fait il faudrait leur en parler dès qu'on leur donne un smartphone.
Exactement. Mais c'est comme tout outil, à partir du moment où vous donnez un outil à un enfant et un téléphone portable, ça peut faire du mal, il faut expliquer comment bien s'en servir, sinon ça peut se retourner contre soi.
Alors Suzanne vous demande, qu'est-ce qui se joue psychologiquement pour les ados quand ils font des rencontres sur Internet? Qu'est-ce qu'ils vont y chercher?
Alors, si on reprend aussi le témoignage d'Alia, ce qu'on voit, c'est que psychologiquement, elle se sentait très fragile, elle le disait, elle n'avait pas confiance en elle, elle se sentait dévalorisée. Et cet Alexandre est arrivé un peu comme un messie et lui a permis de retrouver de la confiance en lui, de se sentir écouté, de se sentir aimé. Enfin, ça a participé évidemment à la mise en place de ce piège et de cette relation. Globalement, c'est vrai qu'il y a du positif aussi dans Internet. Hein. Les jeunes vont aller chercher du plaisir, de l'épanouissement, de la reconnaissance.
Refuge,
des likes, des followers, exactement, un refuge quand on ne va pas bien. Et ça a fonctionné, et tant mieux. Le problème, c'est que ça a mal fonctionné jusqu'au bout. Mais en tout cas, il y a une forme de reconnaissance qui est apportée par les réseaux sociaux et qui fonctionne bien parce que les adolescents, et ça, c'est depuis la nuit des temps, bien avant qu'Internet existe, ont besoin de s'appuyer sur les autres adolescents, sur leur père, PAIRS, pour tout simplement exister, se construire. On va se séparer de plus en plus de ses parents et on va trouver des nouveaux modèles identificatoires parce que c'est avec les copains qu'on va apprendre tout simplement à mieux se connaître, à s'insérer dans la vie, à devenir adulte. Et c'est vrai qu'Internet offre une multitude de possibilités de rencontres, d'échanges. Et donc, il est normal que les adolescents s'appuient sur Internet pour pouvoir avancer dans la vie. La seule chose, c'est qu'il faut encore une fois leur expliquer que parfois, il y a le revers de la médaille et que quand on s'expose, et là en plus de manière nue et dans des positions évidemment qui ne sont pas avantageuses, malheureusement, ça peut se retourner contre nous. Et ces photos, Alia le dit bien, c'est devenu une arme, en fait, qui s'est retournée contre elle. Et donc, il faut être prudent. Se montrer nu, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut avoir en tête qu'il ne faut pas se faire reconnaître sur les photos. Soit sa tête, soit son corps, mais pas les...
Ça, c'est un bon conseil,
Il y a un numéro de téléphone aussi pour les enfants qui sont victimes de violences numériques, qu'on peut peut-être rappeler.
Exactement, le 3018, c'est le numéro court national chargé de protéger les mineurs de toutes les formes de cyberviolence et de conseiller les parents aussi, parce que les parents sont souvent perdus et ils ont besoin d'avoir un contact. On est ouvert tous les jours de la semaine, le week-end également, et donc appelez le 3018 et on vous aidera.
3018.
Isabelle vous demande, quels sont les différents types de pièges que l'on peut trouver sur Internet et les réseaux sociaux? On a parlé revenge porn tout à l'heure, il y a quoi d'autre?
Alors il y en a plein, il y a ce qu'on appelle le grooming par exemple, c'est de la pédophilie en ligne, c'est très fréquent et là aussi les parents sont souvent complètement à côté parce que les enfants ne vont pas en parler. Ça consiste tout simplement quand on est un adulte à se faire passer pour un mineur, et c'est très facile sur un écran parce qu'on ne peut pas savoir la vérité, et d'obtenir des faveurs de la part de ce mineur. Alors ça peut être des faveurs sexuelles, échanger des photos, des vidéos, ou ne serait-ce que échanger avec des propos un peu graveleux, inadaptés pour des enfants, ça peut exciter malheureusement des pédophiles. Le chantage à la webcam.
Pardon, ces pédophiles, comment ils font? Ils vont sur les jeux, sur les sites de jeux vidéo,
très simplement,
sur les réseaux
exactement,
sociaux.
Exactement, sur des jeux vidéo qui sont connus pour être utilisés par les enfants. Les parents n'y vont pas forcément, mais par contre, les pédophiles peuvent évidemment les fréquenter. Le chantage à la webcam aussi. Vous êtes un adolescent, vous allez trouver une jolie jeune fille qui va vous proposer de vous voir par visio interposée. La jeune fille va enregistrer communication avec le garçon. Je dis jeune fille parce que c'est souvent malheureusement des pièges pour les garçons. On pense souvent que c'est toujours les filles qui se font avoir, et souvent ce sont les garçons. Alors, la petite parenthèse, c'est que souvent la fille n'est pas une vraie fille, c'est souvent un prédateur sexuel, là aussi, qui s'est fait passer pour une jeune fille. La vidéo va être enregistrée, et puis au bout de quelques temps, il va y avoir un chantage, puisque pendant la vidéo, on va inviter le garçon à se déshabiller, on va l'inviter évidemment à se mettre en mauvaise posture, et le garçon, évidemment, va payer, va être sous pression, parce qu'on n'a évidemment pas envie de se retrouver affiché comme ça sur les écrans. Et puis un dernier aussi, qui est un sujet qui monte de plus en plus, c'est la prostitution des enfants et des adolescents via Internet. Alors, pas la prostitution classique comme on pourrait l'imaginer un peu datée, mais c'est très facile aussi de monnayer son corps quand vous êtes sur un écran, de se déshabiller contre de l'argent et d'obtenir, alors par des monnaies virtuelles, des bitcoins, des PCS, etc. Hein, c'est très facile de pouvoir payer quelqu'un sans savoir d'où vient cet argent. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on entend de plus en plus monter. On estime entre 6 à 10 000 enfants qui sont victimes de ces actes de prostitution. Et là aussi, il faut en parler parce que ça paraît, je dirais, sans danger pour les jeunes parce qu'ils sont chez eux, les parents ne sont pas très loin. Ils ont même l'impression que ce n'est pas de la prostitution parce que le corps n'est pas touché puisque ce n'est pas écran interposé. Ça reste quand même une forme de monétisation de son corps et donc du coup, il faut agir en prévention.
Alors Lilian ou Liliane, je ne sais pas, vous demande comment repérer que son enfant est manipulé, harcelé ou sous l'emprise d'un prédateur sur Internet. C'est vrai que vu qu'ils ne le disent pas au départ,
bien sûr.
Quels sont les signes?
Alors, il n'y a pas de signes, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir vous dire, les trois signes majeurs, c'est ça. Il n'en existe pas. Il y a un signe, quelque chose qui doit interpeller les parents, c'est quand un enfant change. Vraiment, le changement doit être une sonnette d'alarme pour un parent. Alors, ça peut être un enfant qui dormait bien, qui tout d'un coup ne dort plus correctement, qui mangeait bien et qui n'a plus d'appétit, qui fonctionnait plutôt pas mal à l'école et puis tout d'un coup n'est plus attentif. Ces changements doivent interpeller un parent et le parent doit à un moment s'asseoir à côté de son enfant et dire qu'est-ce qui se passe. Et peut-être introduire aujourd'hui en 2021 cette question. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur tes écrans? Est-ce que dans ton jeu vidéo, est-ce que tu es harcelé sur ton réseau social? Parce que là aussi, si on ne tend pas la perche à l'enfant, il aura peut-être envie de se protéger, de ne pas en parler aux parents. Souvent, les jeunes ont du mal à en parler parce qu'ils ont peur de se faire gronder tout simplement. Oui. Et surtout, la pire sanction pour un enfant, c'est de se faire priver de son smartphone.
Oui, c'est ça.
Parce que les parents vont considérer que c'est la source du danger. Et forcément, en tant que parent, et c'est normal, on a envie d'enlever cette source de danger. Le problème, c'est que les enfants ne veulent pas ça. Donc il y a une espèce de jeu comme ça où je veux pas que tu m'enlèves la source du danger et en même temps c'est quand même ça qui peut me protéger, en tout cas c'est le dialogue, tout est un peu compliqué. Je pense que vraiment il faut inviter les parents à entretenir le dialogue autour des usages numériques de leurs jeunes, de s'intéresser dans la mesure de leur temps et de leurs envies, mais ça veut pas dire passer toute une après-midi à jouer aux jeux vidéo avec leurs enfants, c'est juste de checker un peu ce qui s'y passe, de commenter, au moins pour montrer à l'enfant que je suis un parent moi qui est disponible pour parler de ce sujet-là, et si un jour il se passe quelque chose, viens m'en parler et je te protégerai.
Peut-être leur montrer, comme le témoignage d'Inaya tout à l'heure, ça peut leur parler, quelqu'un
exactement,
qui a vécu ça
exactement.
Presque leur âge.
Exactement, tout à fait.
Alors Fabienne dit, mon fils est allé voir des sites pornographiques plusieurs fois, comment l'empêcher de voir ces images quand on sait que les ados sont forts pour contourner les contrôles?
Alors on dit que la moitié des élèves de primaire ont vu des images pornographiques au cours de leur vie, forcément parce qu'ils
sont... Des élèves de primaire?
De primaire, exactement, ça interpelle. Et une très grande partie des mineurs ont vu des images pornographiques. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont allés volontairement parce que malheureusement aujourd'hui Internet, même si on n'a pas envie de voir des images pornographiques, va nous y confronter. Pour revenir sur la question, je pense qu'il y a deux choses à répondre. La première, c'est de comprendre pourquoi cet enfant, si jeune, a besoin d'aller sur des images pornographiques. À l'association e-enfant, c'est un sujet qu'on évoque souvent, la pornographie chez les jeunes, et quand on leur dit « mais pourquoi vous y allez ?», souvent ils nous disent « mais parce qu'on a besoin de réponses à nos questions ». Les adultes, ils ont du mal à parler de sexualité, souvent ils ont peur de parler de leur propre sexualité, ils sont gênés, surtout en France, c'est un peu compliqué. Donc du coup, nous, on va se tourner vers une source gratuite que l'on croit être fiable, à savoir Internet et les films pornographiques, avec l'idée que la pornographie est le reflet de la sexualité des adolescents et plus tard de leur vie d'adulte. Et c'est là où ils se trompent, évidemment, parce que la pornographie ne diffuse pas un message pédagogique, ça diffuse
Ou alors, il faut bien chercher.
Il faut bien chercher. c'est un spectacle, c'est fait pour les adultes, c'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit avant 18 ans, et ça, il faut le rappeler aux jeunes, c'est pas liberticide, c'est tout simplement pour les protéger, parce que ces images, elles sont extrêmement violentes, elles ne valorisent en général pas beaucoup la femme, voire elles sont très agressives, ces images pour la gente féminine, et tout ça, il faut interpeller interpeller le jeune pour déjà lui dire que s'il a des questions autour de la sexualité, on va peut-être lui proposer d'autres formes de réponses. Il y a un site très bien fait pour cela, c'est jeprotègemonenfant.gouv.fr, jeprotègemonenfant.gouv.fr, tout attaché sans accent. C'est un site qu'on a construit à l'association e-enfance avec le secrétariat d'État chargé de la protection des mineurs. Et sur ce site, il y a deux réponses à la question de cette maman. C'est la première, des réponses concrètes données aux ados pour pouvoir comprendre la sexualité, avec des vidéos, des podcasts, des livres qu'on va pouvoir donner aux jeunes pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et puis la deuxième chose que l'on va proposer aux parents, c'est de mettre un contrôle parental, parce que ces logiciels qui peuvent être installés sur les smartphones ou sur les écrans d'ordinateur des jeunes, ça va permettre de filtrer autant que possible quand même ces images, et en particulier pour celles qu'on n'a pas envie de voir et qui montent intempestivement sur nos écrans. Mmh. Donc je pense qu'il y a deux choses à faire. Mettre le contrôle parental et puis surtout comprendre quelle est la raison de cette recherche par le jeune.
Mmh. Voilà, vous pouvez trouver aussi sur France TV/sexotuto qui est très très
exactement.
Bien fait.
Excellente ouais. série, tout à fait.
Emeline vous dit « Ma fille a donné son mot de passe et ses identifiants à sa meilleure amie, doit-on les changer ?»
Alors oui, il y a plusieurs choses à changer. D'abord, le mot de passe et l'identifier, puis peut-être aussi changer la façon dont cette jeune fille communique son intimité à ses copines, parce qu'il s'agit de ça. Hein. Quand vous partez le matin travailler ou à l'école, vous fermez bien votre porte-à-clé, les mots de passe, c'est un peu la clé de nos réseaux sociaux et de nos sites Internet. On ne laisse pas notre porte ouverte quand on part de chez soi, parce qu'il peut s'y passer plein de choses.
Une ado, elle peut avoir une relation très fusionnelle avec sa meilleure amie, et donc c'est dans ce sens-là qu'elle le fait,
évidemment.
En tant que maman, peut lui dire non, ne le fais pas.
Eh bien, je continuerai ma métaphore. Même à ses meilleurs amis, on ne laisse pas porte ouverte tous les jours de chez soi. Il y a un moment quand même, il faut protéger son intimité, parce qu'aussi les amis ne sont pas forcément amis pour la vie, donc ça peut être un bon moment.
Ça, et c'est puis, un bon argument.
Voilà, un moment, ça peut malheureusement mal tourner. Et puis parce que il y a besoin aussi quand même de protéger nos données personnelles, notre intimité. Et puis je pense qu'il y a moult manières de montrer à sa copine qu'on est très, très proche d'elle, que cette amitié, elle a beaucoup de sens pour elle. Et je pense que transmettre ses identifiants et ses mots de passe n'est pas forcément la meilleure des solutions.
Mmh. Voilà. Alors, Olivier vous dit, les prédateurs peuvent-ils se cacher sur des jeux vidéo en ligne ? On a un peu répondu tout à l'heure, mais il vous demande, comme Fortnite, c'est peut-être l'occasion de dire quels sont les sites
Alors, il n'y a pas un site, je dirais, pire qu'un autre. Tout à l'heure, on parlait d'Abo Hotel, par exemple, qui est un réseau social sur lequel, malheureusement, on peut facilement se cacher quand on est un prédateur sexuel. Movie Star Planet est un jeu aussi qui peut être utilisé par les plus jeunes, sur lequel, malheureusement, il peut y avoir aussi des prédateurs. Fortnite, et puis tous les jeux. À partir du moment où on est sur un jeu en réseau, de toute façon, ça veut dire qu'on peut être confronté à toutes sortes de personnes. Et c'est là où il faut interpeller les jeunes, leur expliquer que derrière un pseudo et derrière un avatar, on peut cacher...
Voilà, pas commencer à paniquer spécialement sur Fortnite ou sur un autre,
non,
mais expliquer que c'est global...
Exactement, il n'y a pas un endroit pire qu'un autre, mais globalement, il faut être prudent.
De notre temps, avec Tetris, il n'y avait pas tout ça. Hein.
Ça, c'est sûr. Non, moi, c'était pas Tetris,
Atari.
C'était les deux barres avec le rond, là.
Ouais,
là, il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec d'autres personnes.
Une autre question. Anaëlle vous dit « Mon fils de 14 ans se fait harceler sur des applications de messages anonymes. Comment fonctionne-t-elle et que peut-on faire ?»
Alors, elle fonctionne très simplement. Il suffit
De messages anonymes, je ne savais même pas que ça existait.
Normalement, c'est des réseaux sociaux qui sont faits au départ pour être utilisés dans le monde de l'entreprise et qui étaient utilisés pour que les employés d'une entreprise puissent donner leur avis sur leur employeur sans risque. Évidemment que ça se retourne contre eux puisque c'était
d'accord.
anonyme.
Donc
voilà, il y a des employeurs qui ont besoin de savoir un peu comment les choses se passent et pour pouvoir améliorer peut-être l'ambiance au sein de l'entreprise. Donc très bien. Le problème, c'est que c'est pas forcément un réseau social comme on l'entend aujourd'hui avec ceux qu'on connaît, Snapchat, Instagram, etc. À partir du moment où on est derrière l'anonymat, je considère que c'est pas un réseau social puisque le réseau social, le principe, c'est d'être à la rencontre de l'autre, de savoir qui on est, etc. Donc le conseil que je donnerais, c'est peut-être de dissuader fortement ce jeune à aller sur ce type de réseau. Il existe plein de réseaux sociaux très bien faits, adaptés pour les jeunes, qui leur permettra de naviguer de manière complètement protégée. Peut-être que ces réseaux anonymes sont à laisser peut-être au monde de l'entreprise, aux adultes. Et en tout cas, l'intérêt de la question, c'est qu'on peut dire que ça existe et qu'il faut là aussi agir en prévention et expliquer aux jeunes qu'on peut peut-être aller ailleurs.
Voilà, merci à Samuel Comblet. Toujours un plaisir de vous recevoir dans la maison des maternelles. Et merci surtout à Alia d'être venue. C'est pas simple de venir comme ça sur un plateau de télé à cet âge-là pour parler de sujets si intimes. Donc bravo et merci à Alia. Puis tant que je suis dans les remerciements, merci à toutes celles et tous ceux qui permettent à ce podcast de voir le jour. Jérémy Normand, Sylvain Bourdère, toutes les équipes de 2P2L. Et puis les équipes de France Télévisions, puisque bien sûr, il s'agit d'un podcast France Télévisions. Ciao tout le monde, à demain pour un nouvel épisode.